Vers le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VO Afrique, édition du lundi 4 décembre 2023, en direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. En Guinée-Bissau, le président a décidé de dissoudre le Parlement 3 jours après la tentative de coup d'État. Au Mali, l'armée affirme avoir repoussé 4 attaques de djihadistes dans la République démocratique du Congo. Déli Sessanga rallie le camp de Moïse Katumbi en vue de la présidentielle du 20 décembre. L'armée israélienne a affirmé lundi agir avec force autour de la ville de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo dissout le Parlement dominé par l'opposition 3 jours après des affrontements armés qu'il qualifie de tentative de coup d'État. Des affrontements entre 2 factions de l'armée ont éclaté à Bissau jeudi soir et se sont poursuivis vendredi après que des soldats de la garde nationale ont libéré un ministre de l'opposition. Davantage avec Alexandrine Rolognon.
Le président Embalo accuse le Parlement d'avoir préféré défendre des membres de l'exécutif soupçonnés d'actes de corruption portant gravement atteinte aux intérêts supérieurs de l'État. Il évoque également une complicité entre la garde nationale, le corps impliqué dans les affrontements avec la garde présidentielle jeudi soir et vendredi, et certains intérêts politiques au sein même de l'appareil d'État. La date des prochaines élections législatives sera fixée le moment opportun, conformément aux dispositions de la Constitution, dit un décret présidentiel communiqué à la presse. Des éléments de la garde nationale ont fait irruption jeudi soir dans les locaux de la police judiciaire pour en extraire le ministre de l'Économie et des Finances, Souleymane Seydi, et le secrétaire d'État au Trésor public, Antonio Montero, qui y étaient interrogés.
Le gouvernement Sierra Leone a annoncé lundi 43 nouvelles arrestations en lien avec la tentative de coup d'État du 26 novembre, portant à 57 le nombre de personnes arrêtées, en majorité des militaires. Les derniers chiffres publiés le 28 novembre faisaient état de 14 personnes arrêtées, dont 13 militaires et un civil. Les noms des auteurs ou commanditaires de ce coup de force n'ont pas été divulgués. Le président Julius Maada Bio a promis samedi que la réponse à ces événements sera dictée par le respect du droit. Au Mali, l'armée a affirmé hier avoir repoussé 4 attaques dans des localités du nord du pays, dont une à Ménaka. Nathalie Barge.
Selon un communiqué publié dimanche soir, les forces armées maliennes ont repoussé successivement des attaques contre 4 postes militaires à Labezagan, Gossi, Tessalit et Ménaka, ville du nord-est du pays proche de la frontière nigérienne. Les FAMA affirment que malgré une concentration importante de combattants terroristes à Ménaka, l'armée leur a infligé une sanglante défaite avec la neutralisation de plusieurs dizaines d'entre eux et l'interpellation d'une 20aine. Selon un fonctionnaire du gouvernorat, l'antenne relais de l'opérateur de téléphonie Orange Mali dans la ville a été endommagée lors de l'attaque, rendant les communications sur place très difficiles. Et la collecte et la vérification de l'information est compliquée par la difficulté d'accès à des sites éloignés. Depuis le mois d'août, les combats se sont intensifiés dans le nord du Mali. Le retrait de la mission de l'ONU, exigé par les autorités maliennes, a déclenché une course pour le contrôle du territoire et l'armée continue son avancée dans le nord depuis la prise de Kidal le 14 novembre.
Une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense est arrivée à Niamey pour échanger avec les autorités militaires. Il s'agit de la première visite officielle d'un membre du gouvernement russe dans ce pays depuis le coup d'État du 26 juillet. Cette délégation russe s'était rendue dimanche à Bamako au Mali, son principal allié dans la région. Les échanges ont notamment concerné des projets de développement pour le Mali en matière d'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire, ainsi que des questions liées à l'approvisionnement du Mali en engrais, en blé et en produits pétroliers. Dans le nord-ouest du Nigeria, un drone de l'armée a accidentellement frappé un village, tuant et blessant des civils qui célébraient une fête musulmane, ont déclaré lundi le gouverneur de Kaduna. Selon Uba Sani, gouverneur de l'État de Kaduna, des fidèles musulmans observaient la célébration du Mauloud ont été tués par erreur et de nombreuses autres personnes ont été blessées à la suite d'une attaque de drones militaires visant des terroristes et des bandits. L'armée n'a pas donné de bilan exact de la frappe, mais un villageois a déclaré que 30 personnes ont été tuées dimanche. En République démocratique du Congo, un quatrième candidat à la présidentielle du 20 décembre a annoncé son désistement en faveur de Moïse Katumbi. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
J'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, d'allier nos forces à la candidature de Moïse Katumbi. C'est ce qu'a déclaré le député Deli Sesanga, leader du parti Ensemble des volontaires pour le développement de la RDC. Il évoque le programme commun élaboré par les émissaires de quatre candidats de l'opposition qui s'étaient retrouvés en Afrique du Sud, Moïse Katumbi, Matata Mponyo, Deli Sesanga et le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, qui, lui, reste en lice. Au début de la campagne, l'ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo a annoncé son désistement en faveur de Moïse Katumbi, suivi par Seth Kekumi et Frank Diongo. Les représentants de Martin Fayoulou aux discussions de Pretoria n'ont pas adhéré à ce programme. Notre mode de scrutin présidentiel ne laisse guère de choix pour échapper au piège de la dispersion des voix que de nous rassembler, estime Deli Sesanga, ajoutant « la survie de notre pays vaut plus que les ambitions des uns et des autres ». Sur les 26 candidats à la présidentielle, à un seul tour organisé en même temps que les législatives, provinciales et municipales, il en reste 22 dont le président sortant, Félix Tshisekedi.
Human Rights Watch a appelé lundi le gouvernement de la République démocratique du Congo à agir contre la violence ethnique après le lynchage le mois dernier d'un soldat Tutsi confondu avec un rebelle du M23, le meurtre du lieutenant Patrick Guissoré Kabongo. Le 9 novembre à Goma, un cas manifeste de haine ethnique, selon Human Rights Watch, qui ajoute avoir aussi reçu des informations crédibles selon lesquelles les autorités ont arrêté arbitrairement des dizaines de Tutsis accusés de collaborer avec le M23. Un réseau d'orpaillage illégal s'activant dans le désert libyen et employant des Chinois, des Tchadiens et des Nigériens a été démantelé, a annoncé le bureau du procureur, précisant que ce réseau dirigé par un Libyen, menait des activités d'orpaillage en violation des règlements et sans l'accord des autorités dans 4 sites dans le désert du sud de la Libye.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des dizaines de chars israéliens sont entrés lundi dans le sud de la bande de Gaza où l'armée étend son offensive contre le Hamas malgré la présence de centaines de milliers de civils. Le point avec Dili Diko.
L'armée israélienne a affirmé agir avec force autour de la ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza soumise à d'intenses bombardements et près de laquelle ses chars ont commencé à entrer. L'armée israélienne a affirmé étendre ses opérations au sol contre le Hamas dans l'ensemble de la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé que les bombardements israéliens ont fait environ 15 900 morts, à 70% des femmes et des Palestiniens de moins de 18 ans. Les opérations militaires israéliennes à Gaza ont également fait 42 000 blessés, selon le porte-parole du ministère Ashraf Al-Khidri. Parallèlement, plusieurs foyers de tension au Moyen-Orient inquiètent la communauté internationale après des incidents dimanche en Mer Rouge et en Irak, alors que les violences se multiplient en Cisjordanie occupée, notamment à Jenin et à la frontière entre Israël et le Liban.
David Cameron va effectuer sa première visite à Washington en tant que chef de la diplomatie britannique à partir de mercredi. C'est ce qu'a annoncé le ministère britannique des Affaires étrangères. Il va s'entretenir avec le secrétaire d'État Anthony Blinken et va rencontrer des personnalités républicaines et démocrates du Congrès. Au centre de discussion, le soutien à l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe et les tensions au Moyen-Orient. Les troupes russes ont accentué leurs assauts sur la ville d'Avdiivka dans l'est de l'Ukraine en attaquant depuis deux directions dans le but d'encercler la ville. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Abdourahman Dia.
Le prix de l'or a battu lundi son record historique à plus de 2 100 $ l'once. Les investisseurs misant sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine au cours de la nouvelle année. Cette ruée vers l'or reflète surtout les attentes croissantes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale au cours du premier trimestre 2024, selon Ricardo Evangelista, analyste chez Active Trades. L'or est également porté par l'instabilité géopolitique au Moyen-Orient, poursuit l'analyste. Le Cameroun et l'Espagne ont signé un accord cadre de partenariat pour former des formateurs à l'entrepreneuriat, notamment pour les PME. L'accord cadre de partenariat en question vise la promotion et le développement de l'entrepreneuriat et de l'esprit d'entreprise par le biais de la formation et du conseil, du développement d'initiatives d'auto-emploi et de consolidation d'entreprise, ainsi que de la découverte et de la promotion d'initiatives d'entreprise qui permettent d'améliorer le monde des affaires, indique le ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat du Cameroun. La Banque africaine de développement, la Commission de l'Union africaine et l'Organisation internationale pour les migrations ont signé un protocole d'accord portant sur un financement de 3,9 millions de dollars sous forme de dons pour renforcer l'investissement, le capital humain et l'engagement philanthropique de la diaspora dans 8 pays africains. Le projet aidera les pays bénéficiaires à identifier les meilleures méthodes pour mobiliser efficacement le capital humain et financier de la diaspora.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Fin hier de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe CAF.
Oui, les clubs égyptiens enchaînent leur seconde victoire de suite. Le FC Futu, 2-1 sur la pelouse d'Al Ahly Benghazi et le Zamalek, 4-0 en Guinée face à Kouya. Le stade malien a raté le coach devant les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. Vainqueur, 2-1, un résultat difficile à accepter par le coach du stade malien de Bamako, Sékou Sek Dibako.
C'est difficile de perdre un match comme ça à domicile. Certes, je reconnais qu'en première mi-temps, l'équipe était carrément à la rue. Il fallait changer de discours dans l'adversaire à la mi-temps et changer quelques joueurs, même notre dispositif sur le terrain. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a fait un très très bon match qui, pour moi, méritait autre chose que de marquer un seul but.
Sékou Sek Dibako, coach du stade malien de Bamako. Le match a été difficile contre une grosse équipe qui a du potentiel, selon l'entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane.
On a réussi à marquer 2 buts, c'était très important pour nous, pour la confiance. On le savait que le stade malien va revenir au score, parce que c'est pas une équipe qui est facile. On a bien géré le match, il y avait des moments difficiles. Et après, on a ramené les 3 points, et c'est ça l'essentiel. La clé, c'est toujours la concentration, et on a mérité d'avoir ces 3 points-là.
Amine Karma, coach de la Renaissance sportive de Berkane, des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Toujours en Coupe CAF, le tenant du titre, l'USM Alger, a signé un second succès. Cette fois-ci, 2-0 chez les Sud-Africains de Supersport. Idem pour les Tunisiens du club africain dans la poule C. Victorieux 3-1 des Angolais de Lobito. Les Nigériens de Rovers United sont classés 2e avec 3 points malgré leur défaite 2-1 au Ghana face à Dreams FC.
En Ligue des Champions, 2e victoire pour le Petro de Luanda, vainqueur 2-0 de l'Étoile du Sahel.
Le club angolais prend du coup seul la première place du groupe C avec 6 points, soit 3 de plus que les Soudanais d'Al Hilal. Victorieux 3-1 de l'Espérance de Tunis, dans le groupe D, Al Ahly du Caire, tenant du titre, garde la tête avec 4 points de même que la SEC d'Abidjan. Dans la poule B, après sa victoire 1-0 sur le Wydad de Casablanca. Dans le groupe A, les 4 clubs sont à égalité avec 3 points, le tout-puissant Mazembe, tombeur des Mamelodi Sundowns 1-0 et les Mauritaniens de Noadibou qui ont dominé les Égyptiens de Pyramide 2-0.
En fin du handball, avec le mondial féminin en Scandinavie.
Toujours pas de victoire pour les sélections africaines, deuxième défaite pour le Sénégal. Les coéquipiers de Yonsian Nyombla n'ont pas pu réagir face à l'un des pays hôtes, la Suède, 26 à 18. Elles jouent leur place en phase finale demain lors de la troisième journée contre la Chine. Pareil pour les trois autres équipes qui jouent aujourd'hui. Le Congo est opposé à l'Argentine. L'Angola affronte l'Islande et le Cameroun joue contre le Paraguay.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezello de retour avec vous. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans notre série de portraits de candidats à la présidence de la RDC, nous nous tournons vers le président sortant, Félix Tshisekedi, en lice lui aussi pour un deuxième mandat. Eddie Isango a joint à Bruxelles le porte-parole de sa campagne, Eric Nindou.
Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a été formé justement dans sa propre famille au combat politique, au combat pour la liberté, au combat pour la démocratie. Une fois élu, ça a été un président qui a voulu appliquer justement les principes qu'il avait appris, c'est-à-dire ceux de faire de la RDC un véritable état de droit et de pouvoir mettre en œuvre la doctrine de l'UDPS, qui était justement ce parti de Étienne Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, dont le slogan principal c'est « Tout pour le peuple ». Et voilà justement, le peuple d'abord. Et justement c'est pour le peuple d'abord que Félix Tshisekedi s'est vraiment investi durant son premier mandat, les cinq premières années, donc de 2019 à 2023. Il s'est battu justement pour le peuple congolais et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se représente devant les Congolais et les Congolaises pour leur demander leur confiance et pouvoir faire un second mandat à partir justement d'un bilan, positif, avec par exemple des mesures phares telles que la gratuité, la mise en œuvre de la gratuité de l'école primaire qui a permis à 5 millions d'enfants de venir, d'accéder à l'école, la mise en œuvre de la couverture santé universelle qui a permis justement de lancer dans 8 provinces du Congo et de bientôt l'étendre à l'ensemble du pays, la gratuité des soins pour les mamans et les bébés et aussi la gratuité des accouchements et qui a permis aussi au Congo de revenir sur le devant de la scène, par exemple en organisant les Jeux de la francophonie. Et à part ça, il y a tout un vaste programme d'infrastructures qui a été mis en œuvre. Bref, le président Tshisekedi est celui qui a remis le Congo sur les rails du développement et qui a redonné la dignité aux Congolais. Et si les Congolais lui font confiance et lui renouvellent pour un second mandat, eh bien, il pourra amener le Congo plus loin et faire de notre pays un véritable pays émergent.
Là, vous avez déjà étalé quelques points de son programme, de ses réalisations, mais on les reconnaît comme celui qui a fait beaucoup de promesses pour les Congos, notamment de faire de la RDC, l'Allemagne du Congo. Qu'en est-il exactement?
Ah ben justement, c'est ça. Ça, c'est une vision. Ce n'est pas une promesse, c'est une vision. C'est-à-dire, le Congo doit devenir comme l'Allemagne, c'est-à-dire un grand pays industriel. Pourquoi? Parce que le Congo en a le potentiel. Et malheureusement, depuis 60 ans, depuis le début de notre indépendance, on parle toujours du potentiel du Congo. Le Congo a à la fois une richesse minière. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut nous permettre, c'est-à-dire tous les Congolais, si nous sommes unis, nous pouvons accéder à l'indépendance économique, c'est-à-dire la maîtrise de nos richesses et la réappropriation de notre patrimoine. C'est ça le combat. C'est ça l'enjeu de l'élection.
Qu'est-ce qu'il compte faire qu'il n'a pas pu réaliser pendant les cinq autres, si jamais il était élu?
C'est pas des nouvelles choses qu'il va réaliser. Il va, pendant les cinq prochaines années, s'il est réélu, il va pouvoir d'abord consolider ce qu'il a déjà commencé à faire.
Eric Nindou, porte-parole de la campagne du président sortant, Félix Tshisekedi.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Togo, les communautés rurales bénéficient d'équipements de première nécessité qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit des plateformes multifonctionnelles dont l'objectif est de contribuer à l'accroissement des revenus et à l'amélioration des services sociaux de base à travers un accès élargi aux services énergétiques. Dans le village d'Afito, l'installation de ces équipements a changé la vie de ses habitants. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
À plus de 100 km au sud-est de la capitale du Togo, le petit village d'Afito vient de disposer d'une mini centrale solaire et d'une plateforme multifonctionnelle. Pour Kofi, le chef du village, c'est un heureux bouleversement pour toute sa communauté.
Ce village existe depuis plus de 100 ans. C'est la première fois que nous avons de la lumière, de l'eau potable et des installations propres pour moudre le maïs ou le manioc. C'est une grande avancée pour le village de Afito.
Lolo Amavi, qui a assuré la coordination des travaux d'installation, fait la visite guidée à partir de la centrale solaire installée à l'entrée du village.
C'est les panneaux solaires que vous avez là-bas qui alimentent le moulin et qui alimentent aussi une machine qui essaie de transformer le manioc pour que les femmes puissent faire du gari. La salle qui est là-bas, c'est le magasin. Nous avons stocké des fours qui doivent servir à frire le poisson. Nous avons un magasin où nous allons mettre un congélateur solaire. Quand les pêcheurs descendent de la pêche, doivent stocker le poisson frais pour pouvoir convoyer ça en ville ou vendre ailleurs.
Dans le village d'Afrique, les femmes sont aux manettes et se réjouissent de l'installation de cette plateforme.
C'est un grand soulagement pour nous les femmes. Pour moudre le maïs ou le manioc, nous parcourions plus de 6 km, même en temps de pluie. Pour avoir de l'eau, il faut la chercher dans un puits de plus de 30 mètres de profondeur. Aujourd'hui, ces souffrances sont terminées. La plateforme multifonctionnelle et le forage sont juste à côté. C'est une délivrance pour nous les femmes de ce village.
Anani, jeune homme d'une trentaine d'années, entrevoit une vie meilleure dans le village, surtout avec l'arrivée de l'électricité.
En tant que jeunes de ce village, nous sommes ravis de ce développement. Nous pouvons charger aisément nos portables et installer des postes de télévision, suivre des informations du monde. C'est très important pour nous.
Pour la pérennité de ces installations, les hommes et femmes du village d'Afito ont été formés pour en prendre soin. Commandant Gazi, ingénieur senior.
Donc pour la formation, elle a duré 15 jours et ça a pris en compte 15 femmes du village et 5 hommes. Donc à l'issue de la formation, les populations ont des notions à l'exploitation et la maintenance de la plateforme multifonctionnelle parce que c'est la population qui va exploiter la plateforme.
Dans le pays, à moins de 10 ans, les autorités ont mis en place une centaine de plateformes multifonctionnelles qui ont considérablement amélioré la vie de plus de 700 000 femmes. Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Kenya, le ministère de la Santé a mis en place un système d'information sanitaire numérique pour aider les travailleurs à diagnostiquer les patients et à stocker leurs dossiers médicaux. Mohamed Youssouf s'est rendu dans un village de l'ouest du Kenya où les hôpitaux ont enregistré une augmentation du nombre de personnes cherchant une assistance médicale depuis le déploiement du système. Le récit est de Thierry Kaoré.
Mildred Owegi fait partie des 3000 promoteurs de santé communautaire du comté de Kisumu dans l'ouest du Kenya. Au service de la population depuis 30 ans, elle utilise depuis peu un système numérique d'information sur la santé dans le cadre de son travail. Une application pour téléphone lui permet de diagnostiquer les maladies avant d'administrer des médicaments et de déterminer le moment opportun pour conseiller aux patients de se rendre dans un centre de santé.
Normalement, nous utilisons ces documents, mais le téléphone est une bonne chose. Le téléphone vous indique ce qu'il faut faire. Alors vous pouvez faire ce que le téléphone vous dit pour que vous soyez correct.
Des patients comme Liliane Okello, mère des jumeaux, ont adopté le nouveau système.
J'aime la façon numérique de prendre les données de santé des enfants parce que quand ils viennent, je les vois toujours lire ce qu'il y a sur le téléphone et faire exactement ce qu'ils sont censés faire par rapport à la méthode manuelle.
Le Kenya a lancé le système d'information sanitaire numérique le mois dernier en fournissant des téléphones intelligents à 100 000 agents de santé dans l'ouest du pays dans le but d'améliorer la qualité des soins de santé. Les experts en santé affirment que ce système pourrait rapprocher le Kenya de la couverture sanitaire universelle en garantissant l'accès aux services de santé à tout moment et en tout lieu. Au cours des dernières semaines, dans cet hôpital du comté de Kisumu, le nombre de patients en quête de services médicaux est passé de 700 à 1800. Richard Adede est responsable clinique à l'hôpital de Nyangande.
Le nombre de patients a beaucoup augmenté. Il y a des gens qui ont beaucoup progressé en termes de numérisation des clients atteints du VIH et de la tuberculose parce que nous pouvons les détecter très tôt. Nous les appelons un jour avant et ils viennent.
Le gouvernement local affirme que le déploiement du système électronique lui permet de planifier les besoins en soins de santé de la population. John Seda est coordonnateur des services de santé communautaire du comté de Kisumu.
Nous n'avons pas besoin de chercher des données parce qu'elles sont à portée de main. Et nous pouvons les utiliser pour faire des projections. Par exemple, nous pouvons dire que l'année prochaine, nous prévoyons tel nombre d'accouchements. Cette année, nous prévoyons de consommer telle quantité de produits. Cette année, c'est notre niveau de morbidité de base. Donc, nous prévoyons que l'année prochaine, nous devrons préparer quelque chose de similaire ou quelque chose de plus ou moins élevé.
Le projet se heurte néanmoins à des difficultés telles que l'absence des réseaux de données fiables dans certaines régions. Pour l'instant, il est conseillé aux agents de santé de rechercher des endroits disposant d'une bonne connexion Internet lorsqu'ils viennent en aide aux personnes dans le besoin.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les étudiants étrangers qui souhaitent étudier dans une école aux États-Unis doivent demander un visa F1 au département d'État. Ce visa permet aux étudiants de vivre aux États-Unis pendant leurs études. Un rapport publié en juillet 2023 par une alliance de dirigeants de l'enseignement supérieur a cependant révélé que les étudiants africains se voient refuser ces visas à un taux plus élevé que ceux des autres continents. Les précisions dans ce reportage de Robin Guess, relaté par Mohamedou Oumfa.
Jessica Keza, originaire du Rwanda, a remporté une bourse l'année dernière pour étudier au lycée Archbishop Riordan de San Francisco. Elle aime le basketball, le ballet et surtout la bio-ingénierie.
J'ai découvert que sans les ingénieurs biomédicaux, les médecins ne seraient pas là. Alors je me suis dit pourquoi ne pas les aider en fabriquant des appareils qui leur permettront d'améliorer les soins aux patients.
Lorsque Jessica a demandé le visa d'étudiant F1 obligatoire pour lui permettre de vivre et étudier aux États-Unis, le département d'État américain a refusé sa demande. Un coup dur pour elle. Debbie Findling, qui a rencontré Jessica alors qu'elle travaillait au Rwanda et prévoyait de l'accueillir à San Francisco, a tout aussi été dévastée.
Elle pense qu'il s'agit d'une lacune qui la concerne plutôt que d'une lacune du système, ce qui me brise le cœur.
Jessica fait partie de nombreux étudiants étrangers à qui on a refusé le visa F1 pour étudier aux États-Unis. Un rapport publié en juillet par l'Alliance des présidents pour l'enseignement supérieur et l'immigration a révélé qu'entre 2015 et 2022, le département d'État a émis un nombre record de refus de visa F1. Le rapport indique que pendant cette période, des écoles réputées ont accepté 92 000 étudiants africains comme Jessica, mais on leur a également refusé des visas sans leur donner de raison. L'étude de l'Alliance de plus de 500 présidents d'universités et de collèges a aussi révélé que les étudiants africains ont le taux de refus le plus élevé, à plus de 50%, tandis que celui des étudiants européens est inférieur à 10%. Radhika Bhandari, auteur principal du rapport de l'Alliance des présidents.
Denials have gone up overall globally.
Les refus ont augmenté dans l'ensemble à l'échelle mondiale, mais plus important encore, les refus ont touché de façon disproportionnée les étudiants d'Afrique, peu importe la façon dont nous analysons les données, peu importe la période visée. Ce qui reste constant, c'est que les étudiants africains se sont vus refuser des visas pour étudier aux États-Unis à des taux beaucoup plus élevés.
Le département d'État affirme qu'il ne peut pas réfuter les données ou la méthodologie des présidents. Cependant, dans une déclaration écrite, précise qu'en 2023, le ministère a délivré plus de 40 000 visas d'étudiants aux étudiants africains, le plus grand nombre au cours de la dernière décennie. En ce qui concerne les refus de visa, toutes les demandes de visa sont jugées au cas par cas, conformément aux dispositions de la loi sur l'immigration et la nationalité et aux règlements fédéraux applicables. Pour Steve Moss, le mari de Fadling, qui travaille également régulièrement au Rwanda, le processus de délivrance des visas était déficient.
Le système du département d'État doit changer fondamentalement. Il faut qu'il y ait de la transparence lorsqu'il y a un refus, et cela doit être immédiat. Ils doivent dire précisément pourquoi il y a eu un refus et fournir une explication claire à cette décision.
Aujourd'hui en terminale, Jessica cherche des opportunités dans tous les pays du monde pour poursuivre ses études universitaires en bio-ingénierie.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Monet-Zello, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.